Alors, bonjour à tous d'abord. Merci d'être là aussi. Voilà. Alors, c'est le deuxième thème que je voulais aborder ce matin, je vous l'ai dit hier. Suis-je coupable d'aimer une personne de même sexe ? Donc, c'est un thème, vous le sentez bien, très délicat. Tout d'abord, le premier point, la sexualité, est-ce un lieu de culpabilité ou de fécondité ? Culpabilité ou de fécondité. La sexualité, qu'elle soit hétéro ou homo, est quelque chose de très complexe. La sexualité en général, c'est très complexe. Moi, je dis souvent aux jeunes, aux séminaristes, que vous êtes aujourd'hui, peut-être que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça sera peut-être plus tellement la même chose. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. On crée des événements, des rencontres, des coups de blues que l'on traverse. L'être humain, au-delà de la sexualité, est très complexe. De quoi demain sera fait, n'en sait rien. Et parfois, le Seigneur choisit des choses étonnantes aussi, pour nous parler, pour nous purifier, et surtout pour nous faire prendre conscience que personne n'est supérieur à l'autre, qu'on est vraiment frère de nos frères. Le grand désir de frère Charles de Foucault, être frère de l'autre. Rien de plus terrible que celui qui prétend posséder la vérité et qui veut que l'autre marche selon sa vérité à lui. Mais qu'est-ce que la vérité, dites-moi ? Aujourd'hui, on la brandit comme une arme, mais c'est quoi la vérité ? La vérité, ça reste une notion abstraite, c'est une doctrine, c'est une façon de voir les choses, mais ça ne rejoint pas forcément l'être singulier. Il faut vous rappeler que la vérité dans la Bible, ça résume peut-être un peu ce que j'ai dit hier, la vérité dans la Bible, ce n'est pas une doctrine, c'est quelqu'un. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est quelqu'un qui vient s'asseoir sur la margelle de mon cœur, comme la rencontre avec la Samaritaine, et qui me dit, et si on dialoguait ensemble pour voir ce qui se passe dans ta vie ? C'est ça la vérité. Et si le chrétien est le représentant de la vérité, il ne vient pas avec le catéchisme sous un bras et le droit canon de l'autre, il vient avec son cœur. Je t'écoute, je veux dialoguer avec toi, car le christianisme est essentiellement, on l'a vu hier, la religion du dialogue, la religion des visages. Dieu s'est fait visage, il s'est fait vis-à-vis. Et si Dieu s'est fait vis-à-vis dans le Christ, c'est pour nouer dialogue avec nous et que nous cherchions ensemble le chemin. Romains 8, petit résumé d'hier. Donc, qu'est-ce que la vérité ? Qu'est-ce que la vérité sur la sexualité ? On peut bredouiller des choses, c'est vrai, pour trouver des points communs, des points de repère, mais c'est quoi ? Bien que la sexualité hommes et femmes, je précise, dans la Bible, s'inscrivent dans le projet du Créateur. Hommes et femmes, à son image, il les créa. Où la sexualité apparaît comme la cerise sur le gâteau, si vous voulez. Ou comme le signe concret du don de soi des personnes. La sexualité n'est pas utilisation de l'autre, mais elle est don de soi réciproque. Lorsque l'amour atteint son sommet, la sexualité, c'est le sommet de l'amour. On a déjà donné son cœur à l'autre. Et la sexualité est un lieu complexe, fait de frustration, car elle peut aussi être « je te prends pour moi, pour me faire plaisir, pour me faire du bien ». Je m'aime, moi, par l'intermédiaire de toi, qu'on soit marié ou non. La sexualité est souvent un lieu de frustration, et je peux vous le dire, moi qui suis prêtre, combien de fois je l'entends chez les couples mariés, en confession, en confidence. Elle peut être simplement leur recherche, la recherche de son semblable, et là ça devient frustrant. Et on retrouve la petite explication de Genèse 3, le fait de manger le fruit, de transformer l'autre à son image. La tentation est toujours là. au-delà de la sexualité, bien sûr, mais la sexualité est un lieu parfois aussi de souffrance entre l'homme et la femme, parce qu'il n'y a pas forcément le don de soi et l'accueil de l'autre, mais aimer, ça peut aussi vouloir dire dévorer. D'où le sentiment de culpabilité qui réapparaît. Qu'est-ce que je n'ai pas donné? Ou qu'est-ce que j'ai fait pour que l'autre me prenne comme ça, m'utilise pour lui-même? Donc la sexualité est toujours un lieu de frustration, un lieu de fécondité aussi. Bien sûr, toujours dans cette perspective du projet du Créateur, homme et femme, à son image, il les créa. Donc, pour moi, le grand problème, la grande question, au-delà du fait d'être hétéro ou homo, c'est comment éduquer les jeunes à l'amour. Et nous le savons bien, notre société ne les éduque pas à l'amour, mais à la consommation de l'autre, avec de belles paroles. Je vais dans les cycles d'orientation, c'est-à-dire ils ont 13-16 ans, je vais pendant plusieurs années, j'ai repris du service parce que ça me manque, ce contact, et je passe de classe en classe pour provoquer des débats, 2 heures par année, je reçois des questions anonymes, c'est vraiment impressionnant, les jeunes, quand ils posent des questions anonymes, ils posent des questions vraies. Aimer, ça leur fait peur. Ils ont une vue brouillée de l'amour. Et toujours la question qui revient au prêtre que je suis, je résumerai, mais dites-nous, qu'est-ce que ça veut dire aimer? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on entend toutes sortes de choses. Mes parents sont divorcés, etc. Ils sont déjà très tôt, très jeunes, à travers les petits écrans, sans doute, les spectateurs d'un amour réduit, d'une sexualité idéalisée, le provoquant chez eux la démangeaison trop tôt de l'instinct, les poussant à vivre toutes sortes d'expériences qui vont les fixer sur l'une ou l'autre orientation. Très étonné de recevoir beaucoup de questions. Qu'est-ce que vous pensez de l'homosexualité? Et alors ça, je peux vous dire que je ne suis pas un spécialiste de l'éducation à la sexualité, je ne voudrais pas, bien sûr, mais très étonnant que ces questions me soient posées à moi, le prêtre que je suis, le curé, comme ils disent, qui, selon eux, n'a aucune expérience de tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un climat de confiance qui se crée. Et c'est tellement important, le climat de confiance, qu'il faut susciter, créer, pour des jeunes et leur parler de l'amour. Quitter un peu la sexualité pour leur parler de l'amour parce que finalement, comme ils me disent souvent, on parle plus que de ça. Et leur parler, un mot peut-être un peu bizarre ou barbare, mais qui revient même comme une arme, la chasteté. C'est quoi la chasteté? Aujourd'hui, on l'utilise presque comme une arme dans l'Église. On tombe dans le piège dénoncé par saint Paul. Il y a les circoncis qui se glorifient d'être circoncis et qui méprisent ceux qui ne le sont pas. Attention, et ça je le dis à qui veut l'entendre, attention. La chasteté n'est pas une arme de vérité, de supériorité. C'est ce que pensaient les circoncis au temps de saint Paul, au temps du Christ. Ce n'est pas une arme que l'on brandit, on croit être chaste. Donc on a résolu le problème, mais on oublie que la véritable vie chrétienne, c'est 1 Corinthiens 13, j'ai beau être chaste, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et cette notion, elle est tellement importante, mais elle peut tellement être mal comprise et utilisée, même chez des jeunes qui viendront vous dire, moi je suis chaste, qu'elle a quitté. Une chasteté a parfois la force du poignet, une abstinence à la force du poignet, mais c'est comme un concours, c'est comme un sportif de haut niveau qui veut toujours atteindre de plus grands résultats, mais qui s'éloigne, en fin de compte, de l'humilité, de cette sainteté qui ne se fait pas à la force du poignet, mais au rythme de nos chutes, parce que c'est là qu'on accepte la main qui nous est tendue, la main de la miséricorde. Et c'est là qu'on peut regarder les autres comme des frères et des sœurs. Je dis des fois dans certains milieux, c'est pas bien perçu, Je leur dis des fois, à force de vouloir faire de la chasteté une arme, je souhaite que ces gens-là chutent pour prendre conscience qu'ils sont devenus terriblement orgueilleux. Mais la chasteté, parlons-en, parce qu'elle est mal comprise. La chasteté, c'est d'abord une attitude du cœur. Ça n'a rien à voir directement avec le sexe. La chasteté, là je lis ce que j'ai écrit, ce qu'elle n'est pas d'abord. La chasteté n'est pas un couvercle ou un déni mis sur des pulsions sexuelles par peur ou par honte. Alors on met un couvercle. Et quand on met un couvercle, à un moment donné, le couvercle, il vous pète à la gueule, vous savez. Voilà. Donc c'est pas ça. C'est pas interdit, chaste. Alors, je suis chaste, j'ai plus de problème. Je suis chaste, je suis au-delà de tout soupçon. Non. La chasteté n'est pas une violence faite à soi-même pour réprimer ses désirs par peur des interdits. La sexualité n'est pas une fuite, la chasteté, pardon, n'est pas une fuite de sa sexualité en entrant dans un séminaire ou un couvent pour s'en croire définitivement libéré, ce qui provoquera un jour ou l'autre une montée des laves pulsionnelles. Moi, je dis souvent aux jeunes, il y a une séminariste, donc il y a une parole dangereuse dans l'évangile qui peut être mal comprise. Celui qui veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix. Alors on croit que renoncer à soi-même, c'est renoncer à tout ce qui n'a pas été mis à jour, à tout ce qui nous crée des problèmes et des complications. Et puis on se dit, ben voilà, avec le Christ, je vais résoudre tous ces problèmes-là. Et puis on entre dans une forme de soumission qui est aussi ce couvercle sur des choses non résolues. Alors moi je dis souvent, cette parole elle peut être mal comprise. Renoncer à soi-même, ce n'est pas renoncer à l'être que je suis avec toutes ses couches, à l'être avec ses difficultés, à l'être fait d'une sexualité qui parfois peut causer problème. Non, suivre le Christ, c'est renoncer justement au déni. C'est renoncer à tout ce qui fait que cet être n'est pas libre, que cet être n'est pas connu. Le Seigneur n'appelle pas à lui des moitiés d'êtres, il appelle des êtres tout entiers. Et prendre sa croix justement, c'est aller au fond de ses difficultés, parce que la croix révèle nos blessures, nos difficultés et notre péché, comme je disais hier. La croix est le miroir de qui est l'homme dans toutes ses couches et en vérité. Ce n'est pas une fuite. C'est accepter enfin d'être responsable de qui je suis, mais sous le regard d'un amour qui m'aime puissamment. Je crois que c'est important ça. Sinon on n'est pas vrai. Ça, la vérité c'est du concret, c'est pas de la théorie. C'est d'aller jusqu'au fond de l'être que je suis et de renoncer au mensonge, de renoncer à la fuite, de renoncer au refoulement. Parce que c'est là que le Seigneur m'attend lorsqu'il m'appelle à lui pour devenir prêtre ou simplement comme chrétien. Voilà. Donc la chasteté n'est pas l'isolement, le repli sur soi, le verrouillage des sentiments et des émotions qui va provoquer une attitude de froideur et de distance avec les autres. La chasteté n'est pas non plus une attitude de domination, de pouvoir, de rigidité, de légalisme, ou au contraire de soumission et d'écrasement par peur de l'autre sexe, pour compenser inconsciemment le manque ou une frustration d'une authentique relation aux autres. Ça, je pense que c'est important. On a vu dans l'Église, hein, et je suis bien placé, des formes de pouvoir ou de rigidité qui sont liées à une non-acceptation de sa sexualité. Et si je ne suis pas forcément un grand copain de Freud, je trouve quand même que Freud n'a pas dit de bêtises ou que des bêtises, il a dit des choses quand même très incroyables et très impressionnantes, qu'il vaut la peine de temps en temps à traverser ces commentateurs de revenir, pas au rebord de la psychologie. C'est un petit peu comme la loi dans la religion, il faut la dépasser pour être soi-même responsable de qui nous sommes. Enfin, la chasteté n'est pas le mépris du corps et de ses plaisirs. Voilà. La chasteté, ce qu'elle est, alors elle est quoi? Alors je lis la suite. La chasteté, c'est l'humble reconnaissance de ses pulsions, quelles qu'en soient leurs manifestations. Comment je fonctionne? Tout fonctionne, eh bien tant mieux. La chasteté, c'est un entraînement, un apprentissage à la maîtrise de soi, qui est une pédagogie de la liberté humaine. L'alternative est claire et ça les jeunes le comprennent bien. Ou l'homme commande à ses pulsions et il obtient la paix, ou il se laisse asservir par elle et devient malheureux. Voilà. L'homme descend du singe. Il y en a qui ne sont encore pas descendus de l'arbre. Ce serait bien qu'ils descendent une fois. Mais heureusement, on est plus qu'un chimpanzé puisqu'on ressemble à Dieu. C'est quand même magnifique. C'est quand même différence entre le chimpanzé et nous. Enfant de Dieu. La chasteté est une attitude du cœur habitée par l'amour qui s'ouvre à l'autre sans crainte. Elle permet d'apprendre à trouver la juste distance aux autres, à faire le don de soi-même dans le respect de l'autre sans vouloir accaparer l'autre, en faire sa chose. La chasteté est un art de vivre réussi, comme on dit d'un guitariste, qu'il est parvenu à la maîtrise de son instrument, à l'inverse d'une violence faite à soi-même. Le respect de ses passions, dit Maurice Sandel, peut-être que vous connaissez un ancien théologien suisse, il dit, voilà, il faut respecter les passions pour en faire le clavier des vertus. Mais il ne faut pas violenter ses passions, elles peuvent devenir des leviers de beauté. Hein, c'est, les passions, les pulsions, c'est de l'énergie neutre au départ, mais ça peut venir de l'énergie positive, hein. Regardez le cantique des cantiques dans la Bible, ceux qui l'ont écrit devaient être des êtres très pulsionnels dont l'énergie s'est transformée en mystique, mais en mystique pas loin de la réalité bien sûr, parce que les termes utilisés dans le cantique sont la preuve d'un grand réalisme aussi. Tous les grands mystiques, un Saint Bernard qui a commenté le Cantique des Cantiques, ça devait être un homme très pulsionnel, mais qui a fait de son énergie pulsionnelle une hymne à la beauté, à la vie, à l'amour, effectivement le clavier des vertus. La chasteté permet d'être donneur d'amour plutôt que chercheur de jouissance, dans le respect de l'autre et le désir de le faire exister. La chasteté canalise cette puissante énergie pulsionnelle pour alimenter la patience, l'amour gratuit, le don de soi, la créativité. Elle l'intègre dans toute la personne, jusque et surtout dans sa dimension spirituelle. La chasteté, c'est une attitude de prudence devant les occasions de dérapage, images érotiques, certains lieux, certaines personnes. Donc la chasteté, c'est vraiment l'instrument de l'amour. Quand on dit ça aux jeunes, ils ne s'en reviennent pas. Eux, ils pensent que la chasteté, c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Mais non, c'est une attitude du cœur, c'est la beauté de l'amour. C'est le beau vase à fleurs que je choisis pour mes plus belles fleurs. C'est une harmonie, ça se travaille. Mais vous savez, on ne l'enseigne pas dans les écoles. Il est plus facile de mettre un préservatif que d'apprendre ce qu'est la chasteté. Combien nos jeunes sont frustrés. Mais ils ne savent pas pourquoi ils sont frustrés. Mais ils ont cette sensation très forte d'un manque d'ajustement dans ce qu'on leur dit. La chasteté, bien sûr, doit être vécue dans une relation d'amour. Et je souligne même que c'est cela que nous devons apprendre aux jeunes, hétéros, et surtout homos. Pourquoi je dis aux homos? Ça, je tiens à le dire parce que dans le langage courant, dans les idées reçues, on réduit tellement l'homosexualité à la sexualité. Alors il y a des jeunes qui disent, bon, je suis homo. Alors la tentation de partir dans des ghettos, ben, je vis mon homosexualité dans des ghettos, dans des boîtes gays ou sur Internet. Mais c'est grave. On a une responsabilité immense, nous, simplement comme humains et comme gens d'Église, de caricaturer et de réduire cela à des actes. Comme si tout ce langage était réservé aux hétéros. Non, il est urgent d'aider les jeunes à une attitude de chasteté pour leur permettre ensuite de faire un choix responsable, non pas de soumission à une règle ou sous l'effet de la peur qui ne serait pas un choix responsable, mais le choix, par exemple, de s'enfermer dans des ghettos. Et là, il y a une grande misère, il y a une grande souffrance. Et il faut que l'Église soit attentive à cette souffrance-là. Parce que l'homophobie, de toute façon, elle sera toujours là. Elle existera toujours, je pense. Mais il faut aller de l'avant, il faut dépasser cela. Certes, dans la sexualité homosexuelle, il y a une limite, tout le monde le dit, c'est la fécondité. Tout en sachant qu'elle ne se réduit pas à donner la vie à des enfants. Et je pense que c'est aux personnes concernées à travailler tous ces sujets, tout simplement pour chercher quelle fécondité possible à travers la sexualité, au-delà de la sexualité. Je pense qu'il y a quelque chose qui est à travailler. Je connais de jeunes à l'époque, par exemple, qui sont partis dans le tiers-monde, pour eux, donner la vie, c'était s'engager dans le tiers-monde, par exemple, hein, pour éviter que, justement, par manque d'accompagnement, les personnes homosexuelles se dirigent vers le repli sur eux-mêmes. C'est important de chercher aussi les qualités d'une personnalité homosexuelle, hein, même s'il y a une limitation, même si des jeunes me disaient, pour nous, ça se met sur une blessure profonde. Voilà, moi j'écoute. Il faut aussi chercher, à partir du moment où on fait face avec ce qu'on est, où j'accepte que je ne changerai pas, d'être celui que je suis, quels sont de cette personnalité les vertus, j'allais dire, hein. Il y a beaucoup de créativité, on le sait bien, de sensibilité, de développer toute la compassion, parce qu'il y a la souffrance, parce qu'il y a eu la souffrance. Combien les personnes homosexuelles dans les milieux de souffrance, d'hôpitaux, de souffrance sont importantes. Et ça, il faudrait qu'un jour on puisse le dire et le crier tout haut et l'écrire. Arrêtez de chercher toujours comment on peut s'en sortir. Comme à un moment donné, il faut vivre des expériences de fécondité, des expériences qui donnent la vie, qui donnent la vie, pour dépasser ces éternelles questions qui sont au demeurant incontournables, bien sûr, nous le savons bien. Et cela, pas seulement chez des jeunes, mais même chez des personnes d'âge mûr qui sont toujours donc enfermées dans une culpabilité. Ça me paraît important. Je veux rajouter que l'abstinence qui est liée à la chasteté, mais on peut être chaste sans être abstinent de relations sexuelles, cela aussi c'est un choix, que l'on soit hétéro ou homo d'ailleurs, hein. Alors moi j'écoute, j'entends sur ce sujet des personnes homosexuelles qui me disent, moi depuis que je suis abstinent, je suis libre, je peux vivre le don de manière vraiment épanouissante. D'autres me disent, moi depuis que j'ai un ami, une amie, sans vivre l'abstinence, j'ai trouvé un équilibre. Alors évidemment, moi je ne cherche pas à tirer un chemin commun, une règle, en disant voilà, c'est ça qu'il faut vivre. J'essaye d'écouter les personnes et de valoriser ce qui est constructeur dans une vie. Comme pasteur, c'est cela que je regarde. Je me refuse à parler ou poser des questions sur la sexualité, ce qui ne me regarde pas d'ailleurs, mais de voir avec les personnes dans ce que tu vis, dans ce que vous vivez, qu'est-ce qui est constructeur, qu'est-ce qui est destructeur. Il est peu aidant justement, de séparer la personne de la sexualité, ça provoque de grosses culpabilités. Comme je disais hier, je crois cette parole que je n'affectionne pas du tout, on accueille le pécheur mais pas le péché. C'est-à-dire, voilà, t'es homo, on t'accueille, mais pas ce que tu fais. Et tu fais quoi d'abord? Qu'est-ce qu'on en sait? Ben, il faut un petit peu qu'on aille un peu plus dans ce langage de respect des personnes. Qu'est-ce qui est constructeur, qu'est-ce qui est destructeur, voilà, tout en maintenant cet enseignement de la chasteté. Et dans mon bouquin, je donne la parole. Je donne la parole à des personnes, voilà, qui me disent, moi j'ai trouvé enfin la paix dans la relation avec mon ami, et d'autres qui me disent, moi j'ai trouvé la paix quand j'ai choisi le célibat et l'abstinence. Je ne parle pas de chasteté, hein, parce qu'on est tous concernés par la chasteté, qui est cette attitude du cœur qui donne la vie et qui ne prend pas la vie de l'autre. Certes, je vous le disais hier, je vais leur dire très rapidement, un soupçon a été jeté aussi à l'intérieur même de l'Église sur la sexualité depuis des temps immémoriaux, depuis que l'Église a commencé à travers l'Écriture d'étudier et d'écrire une théologie en se basant sur des philosophes dont, je vous le disais hier, un fameux Philon d'Alexandrie qui a énormément influencé la théologie chrétienne, influencée lui-même par Pythagore, par Platon, où, je cite, « Il est interdit de désirer, car la source de tous les fléaux, c'est le désir sexuel, qui est écarté par Dieu dans les 10 commandements, tu ne désireras pas. » Vous voyez comment l'interprétation qu'on peut faire de certains textes, hein. Dès lors, la sexualité est suspecte. Saint Augustin, par exemple, aussi dans cette même ligne, célèbre connaisseur de Philon, affirme que le désir sexuel, l'éros, provoque la perte du contrôle de soi. De plus, l'éros est responsable de la transmission du péché originel transmis par voie de sexe. Donc, voyez l'état de la situation. Telle une maladie qui corrompt la nature humaine. Donc, la pulsion sexuelle porte en elle le mal. Donc, déjà là, vous voyez, ça a influencé des générations de chrétiens. On n'en a encore pas dehors. N'en a encore pas d'or, mais ça, il faut savoir aussi que non seulement la sexualité porte en elle-même une frustration, car elle est le haut lieu de l'amour, et parfois pas du tout de l'amour, c'est pourquoi elle est un lieu de frustration. Et en plus, il y a ce soupçon quand même, aujourd'hui encore, dont on n'est pas totalement libéré, que saint Paul, en le lisant bien, nous en libère. Voilà. Donc l'enseignement de l'Église, c'est le point numéro 2. Donc je reviens sur ce mot dont il a été question hier, de désordonner. Dans le catéchisme, il est dit que les relations homosexuelles sont qualifiées de désordonnées dans le sens qu'au commencement, le projet de Dieu était homme et femme dans la complémentarité et la différenciation sexuelle. Alors, voilà, c'est clair que ce rocher, il est imprenable, il est incontournable, le projet de Dieu, c'est homme et femme dans la différenciation. Moule de la famille, ouvert à la vie. Mais désordonné, je m'y arrêtais un petit instant, il est intéressant. Je disais à un petit groupe, Pierre, moi je dors pareil dans une chambre complètement en bordel que dans une chambre toute en ordre. Et toute rangée. C'est un petit peu la caricature, donc. Alors, je citerai un théologien du nom de Michel Salamollard, m'a dit qu'il était déjà venu ici. Voilà ce qu'il dit au sujet du terme désordonné, que je trouve très éclairant. En effet, pour qu'il y ait culpabilité réelle dans n'importe quel domaine moral, il ne suffit pas d'un acte désordonné, mais il faut une intention mauvaise, une liberté d'accomplir l'acte ou non dans des circonstances qui peuvent être atténuantes ou aggravantes, avec des conséquences positives ou non sur les personnes impliquées. Exemple, heureusement qu'il y a un exemple. Bon, exemple, un viol entre époux n'est pas désordonné du point de vue de l'acte, il n'en est pourtant pas gravement coupable. Alors, il en est gravement coupable. Voilà. Excusez-moi. Merci. Voilà. Il n'est pas désordonné parce que voilà, tout est permis. Mais rien, même tout ce qui est permis n'est pas forcément profitable, dit saint Paul. Donc, il est gravement coupable, cet acte, même s'il n'est pas désordonné, vous comprenez ? Voilà. À l'inverse, un acte sexuel entre deux personnes homosexuelles fidèles l'une à l'autre est sans doute désordonné du point de vue du catéchisme catholique, mais peut aussi, vu les intentions, la liberté et les conséquences, être pas du tout coupable ou peu coupable. Voilà. C'est à méditer, ça. Moi, ce que j'aimerais rajouter à ce qu'il dit, c'est que quand on parle de la famille, synode de la famille, on a toujours tendance à prendre des passages bibliques très positifs pour dire aux couples, aux familles, voilà ce que vous devez vivre. Bon, hommes et femmes, ça c'est évident, ou l'homme ne quittera pas sa femme, il ne la répudiera pas, etc. Tous ces textes, finalement, qui montrent une vie de couple idéale, il faut que ces textes soient cités, mais quand on cite ces textes uniquement, on manque, ce que va dire le pape François, de miséricorde. Si l'on regarde qui est la famille, ne serait-ce que dans l'Ancien Testament, on prend peur. On voit que Dieu s'est transmis, s'est donné et sa promesse a traversé que des couples, mais complètement à la masse, complètement désordonnés et coupables. Vous prenez simplement Caïn et Abel, Abraham qui va faire son Ismaël sur les genoux de sa servante. Enfin, quand même, on a beau dire c'est culturel, mais bon. Vous prenez les autres, Salomon, David, mais vous lisez tout l'Ancien Testament, vous dites, mais quel bordel il y a là-dedans. Et c'est juste. Et pourtant, Dieu a passé par là. Mais c'est incroyable. Dans la généalogie de Jésus que l'on lit au temps de l'Avent, on voit Rahab, une prostituée, on voit une lignée, mais vraiment de gens, mais complètement à la masse. Et c'est cette généalogie-là que Jésus sort. C'est impressionnant. Il ne faudrait peut-être pas oublier ça aujourd'hui. Que Dieu s'est révélé à travers des éclopés que nous sommes encore aujourd'hui. Il ne faudrait pas oublier ces textes-là. D'où, je pense, c'est moi qui interprète le cri de François, « Accompagnez, accompagnez, ne jugez pas. » La miséricorde. C'est parce qu'on est conscient de l'idéal. On est encore dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi. On est encore dans l'Ancien Testament. Donc on a besoin de cette miséricorde. Alors je me suis posé la question, j'ai vraiment demandé au Seigneur, j'ai prié. Je me suis dit, mais il y a ce texte fondateur, homme et femme, il les créa. Puis ma foi, ils sont arrivés les homos, quoi, ils sont là. Voilà, on est là, boum boum, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, allez, qu'est-ce qu'on fait alors avec eux? Ils sont là. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai bien aimé, ça je rapporte dans mon livre, un jeune qui a beaucoup étudié saint Paul, qui est avec un ami, donc en couple, protestant chez nous, là. Puis il est allé à un culte où notamment le pasteur a commencé comme ça, homme et femme. Bon, puis il a ironisé, sans citer directement l'homosexualité. Et puis, il a dit, voilà, eux, ils ne sont pas dans le projet de Dieu. Alors, il est allé après à la sacristie, puis il a dit, bonjour, monsieur le pasteur, je suis homosexuel, donc je ne suis pas dans le projet de Dieu. Puis bon, il est un petit peu gêné, quoi. Puis il a dit, alors vous me mettez où, là? Moi, je suis en couple, ça fait 15 ans, stable, tout va bien, vous me mettez où, là? Et il a une belle réponse, quand même, ce pasteur, il s'est bien repris. Il a dit, je vous mets dans le cœur de Dieu. J'ai trouvé beau, vous voyez, parce que sinon on aplatit tout, on normalise tout, enfin, entre guillemets, comprenez. Il y a quelque chose, on ne peut pas être un porte-à-faux non plus avec la parole de Dieu. Et puis, voilà, moi je ne sais pas si c'est de Dieu ou pas, mais j'ai trouvé une parole dans la Bible qui pourrait éclairer et éclairer les personnes homosexuelles. C'est le potier. C'est un texte, Jérémie chapitre 18, depuis le verset 1, c'est très court, je vous le lis. La parole qui s'adressa à Jérémie de la part du Seigneur, « Descends tout de suite chez le potier, c'est là que je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis chez le potier, il était en train de travailler autour. Quand, par un geste malheureux, le potier ratait l'objet qu'il confectionnait avec de l'argile, il en refaisait un autre selon la technique d'un bon potier. Alors la parole du Seigneur s'adressa à moi, « Ne puis-je pas agir avec vous, gens d'Israël, de la même manière que ce potier, vous êtes dans ma main, comme l'argile dans la main du potier. » Alors qu'est-ce que j'ai compris à travers ce texte? Projet du Créateur, c'est homme et femme, c'est clair. Et puis là, le projet du potier, c'est faire un vase comme ci, comme ça. Puis il y a une bulle dedans, on ne sait pas trop pourquoi il y a une bulle. Et puis cette glaise... Pop s'est raté. Qu'est-ce qu'il fait? Il reprend cette glaise et il refait un nouveau vase. Il va lui donner une nouvelle forme. Et si ça casse, il va recommencer. Bien sûr, on pourra appliquer cela à toutes nos vies, mais moi j'y vois là un texte peut-être qui peut aider les personnes homosexuelles en disant, bon, c'est vrai, on n'est pas dans le premier projet, dans le livre de la Genèse, mais on est dans ce nouveau vase que le Seigneur veut faire à partir de la bulle qui a eu dedans. Bon, on disait tout à l'heure avec plusieurs, on ne sait pas d'où ça vient, l'homosexualité. Bon, l'Église aussi le dit, hein, dont la genèse psychique nous échappe. Mais on a besoin de s'appuyer quand même sur une parole. Seigneur, donne-nous une parole qui va nous aider. Et ben, pour moi, cette parole, elle est là. Elle est là. Il y a quelque chose qui a raté, je ne sais pas quoi. Mais le Seigneur refait quelque chose avec moi, de beau. Peut-être que ce n'est pas les deux anses que j'aurais voulu avec un bec comme ça, puis des garnitures comme ça. C'est peut-être un vase qui va faire comme ça. Mais c'est ça. C'est ça. Le Seigneur reprend le tout et il fait un nouveau projet avec moi. Est-ce que ça vous va? Ou vous trouvez ça idéaliste?
Bon, ça peut s'appliquer à tout le monde.
À tout le monde. À tout le monde. Voilà, bah, là c'est moi un petit... Oui.
Peut-être pour filer la comparaison, c'est que tant que le vase n'est pas cuit, on peut le reprendre.
Absolument.
Une fois que la cuisson a eu lieu, il n'y a plus qu'à le briser. Et là, on ne peut plus rien en faire. Mais ce n'est pas le projet de Dieu.
Non, alors il ne faut pas qu'on...
cuire des vases trop tôt. Quoi.
Voilà. Donc, prenons le temps de nous laisser modeler pour que le Seigneur enlève toutes ces aspects de sentiment de culpabilité et de dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux me donner comme forme à travers ce que je suis, ce que je n'ai pas choisi d'être? Quelle forme, Seigneur, tu veux me donner? Et ce qui est assez étonnant dans cette parole, je descendis, ouais, il est en train de travailler, quand partant par un geste malheureux, le potier ratait l'objet qu'il confectionnait. Que je ne sais pas, je ne veux pas m'avancer, pardon Seigneur si je vais dire une bêtise, hein, mais est-ce que c'est peut-être pas de Dieu quelque part tout ça? Je ne sais pas. Je pose la question. Je ne sais pas. À vous de répondre. Donc je ne veux absolument rien justifier, vous le sentez bien. Je pose des questions, je me laisse éclairer par la parole de Dieu. Parce qu'il faut, trouver un regard positif. Dans ce qui a raté, dans ce qui a cassé, on recommence. Mais on recommence avec la terre que je suis, pas la terre de l'autre. Avec la terre que je suis, je veux, moi, trouver mon chemin entre les mains de Dieu. Et il veut faire de moi quelqu'un de beau, quelqu'un de merveilleux, un chef-d'œuvre de sa miséricorde. Est-ce qu'on accepte d'être chef-d'œuvre de sa miséricorde? Si on accepte ça pleinement, vous aurez accepté d'être qui vous êtes, en trouvant et en cherchant votre chemin. Voilà.